pour ce matin, je vais poursuivre la série dans le livre de Un Roi, qui est normalement une série pour Élie. Mais là, Élie n'est pas dans ce texte-là, et nous allons quand même poursuivre le chapitre 22. Si vous n'avez pas de Bible, je vous propose de lever la main pour en prendre une. Le texte ne va pas s'afficher vu qu'il est un peu long. Je vais essayer de le lire de la façon la plus, plaisante possible. Mais je m'excuse, j'ai un problème à l'oreille et je m'entends avec un écho. Donc j'espère ne pas être trop désagréable dans le ton de la voix que je vais emprunter ce matin. Un Roi, chapitre 22. On resta 3 ans sans guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël, qui est Akab, dit à ses serviteurs, « Savez-vous que la ville de Ramoth en Galade est à nous ? Et pourtant, nous hésitons à la reprendre des mains du roi de Syrie. » Il dit à Josaphat, « Iras-tu au combat avec moi contre Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et Josaphat dit au roi d'Israël, « Mais consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et il leur dit, « Irai-je au combat contre Ramoth en Galade ou dois-je m'en abstenir ?» Et ils répondirent, « Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Imla. » Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi du prophète. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque, un serviteur, et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Imla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur l'air à l'entrée de la porte de Samarie, la capitale donc. Et tous les prophètes, 400 prophètes, prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et dit « Ainsi parle l'Éternel, avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination. » Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant « Monte à Ramoth en Galade et tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi « Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur. Tu diras du bien. » Et Michée répondit, « L'Éternel est vivant, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous au combat contre Ramoth en Galade ou devons-nous nous en abstenir ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te dire, me faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel. » Et Michée répondit, « J'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » L'Éternel dit, « Ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun donc retourne en paix dans sa maison. » Et le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. » Alors Michée dit, « Eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu que l'Éternel siégeait sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui et à sa droite et à sa gauche. L'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade, pour qu'il y tombe, pour qu'il y meure ?» Ils répondirent l'un de l'autre. Alors un esprit sortit et se tint devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » Mais l'Éternel lui dit, « Comment ? Je sortirai, répondit-il, je le deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu réussiras bien à le séduire, sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, ce que voici. Et l'Éternel a décrété un malheur contre toi. » Alors Sédécias, fils de Kenana, un des prophètes qui est dans l'assemblée, il s'approcha et il frappa Michée sur la joue et dit « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit « Tu le verras bien le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher, pour fuir. » Et le roi d'Israël dit « Prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et Joas, fils du roi, et tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et ne lui donnez que la portion congrue de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée répondit « Si tu retournes vraiment en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Et il dit encore « Écoutez-vous tous, peuple. » Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth, je suis au verset 29, en Galade, et le roi d'Israélite dit à Josaphat qu'il se déguisait pour aller au combat. « Mais toi, revêts-toi de tes habits royaux. » Donc Akab se déguise et il demande à Josaphat de revêtir ses habits royaux. Ainsi, le roi d'Israël se déguisa pour aller au combat. Et le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, et vous attaquerez seulement le roi d'Israël, Akab. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « C'est certainement le roi d'Israël » et se dirigèrent vers lui pour l'attaquer. Mais Josaphat appela au secours, et les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de l'arc au hasard, et il frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Et le roi dit au conducteur de son char « Tourne, bride, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé et le combat devient acharné ce jour-là. » Et le roi dut être maintenu debout dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula. Dans l'intérieur du char, au coucher du soleil, ce cri se répandit, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on ensevelit le roi à Samarie. Nous avons dans ce texte-là deux rois. Je pense que c'est clair pour vous, celui d'Israël qui s'appelle Akab, que l'Éternel décrit dans le chapitre qui précède comme une personne qui s'est vendue à Baal, qui s'est vendue et qui se comporte d'une manière abominable devant Dieu, allant devant les idoles, faisant comme les Amoréens qui ont été chassés, etc. Un roi qui n'en a rien à faire de Dieu, absolument rien à faire de Dieu, qui veut juste faire les choses comme il l'entend. Dans le chapitre précédent, il a fait tuer une personne parce qu'il voulait sa vigne. Et Josaphat, qui est lui le roi de Juda, le royaume du Sud, qui est un roi qui est attentif à la parole de l'Éternel, qui va réformer son pays et demander à ce que la justice soit rétablie face à l'Éternel. Vous avez quelques références si vous voulez les noter. Donc nous avons ces deux rois qui sont en train tout simplement de se retrouver ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a une alliance, il y a un mariage. Là, on ne sait pas trop de quel mariage il s'agit, mais c'est rapporté dans deux chroniques. Il y a un mariage entre les deux familles et ils sont ensemble. Et à ce moment-là, donc, nous l'avons lu, il y a l'occasion pour Akab de dire « J'aimerais bien que l'on puisse récupérer la ville de Ramoth en Galade. » C'est-à-dire, voilà, je me suis fait prendre cette ville par les Syriens. Et puisque là, on est deux rois, on va pouvoir y aller pour la récupérer. Un petit peu arrogant, n'est-ce pas, en disant, voilà, waouh, toi, Josaphat, je vais te montrer un peu comment on va faire pour récupérer une ville, tu veux venir avec moi? Et Josaphat, lui, va dire, oui, je veux bien venir. Seulement, il faut quand même faire les choses dans l'ordre, on va quand même consulter l'Éternel. Et on constate dans ce texte-là quelque chose d'assez étonnant. D'assez étonnant. Il y a dans ce texte deux catégories de prophètes. Ce que l'on appelle les prophètes professionnels qui sont formés à l'école officielle de la prophétie qui avait été mise en place par l'État. Ils sont dans ce texte au nombre de 400, peut-être qu'ils sont plus dans l'école. Mais il y a donc là, dans cet endroit, ce peuple, là, le désir de former des gens à la prophétie. Un peu comme un institut, n'est-ce pas ? Là, c'est pour être des prophètes. Et il y a dans aussi ce texte, et on le voit tout au long de Un roi, des prophètes qui sont des hommes de Dieu, qui ne sont pas probablement passés par cette école de la prophétie, notamment Michée, et Élie et d'autres encore qui sont véritablement des hommes de Dieu. Et nous avons compris, enfin vous avez compris, je pense, qu'en fait Josaphat, quand il a vu les 400 prophètes dire « c'est bon, vas-y, Acab, c'est bon, tu peux y aller, l'Éternel livrera cette ville entre tes mains », il a dû se dire « attendez, là, c'est des gens qui sont payés, n'est-ce pas, pour dire à ce roi ce qu'il veut entendre ». En effet, ces 400 prophètes sont payés, ce sont des prophètes fonctionnaires, si on peut parler comme ça, et ils ont gros à perdre de dire le contraire de ce que le roi veut entendre. Et ils vont dire exactement ce que Acab veut entendre. Tu es le grand roi, victorieux, tu peux y aller, l'Éternel est avec toi. Étonnant, n'est-ce pas? On est surpris par ça. Enfin, vous êtes peut-être en train de découvrir ce texte pour la première fois. Combien ne l'ont jamais lu? Levez la main. Ah, ce n'est pas une punition, hein? Hein, c'est un texte un peu particulier. On se rend compte que il y a de la religiosité, il y a de la spiritualité, il y a même des choses qui semblent être claires, la prophétie, n'est-ce pas? Mais on voit qu'il en est bien autre chose. Et donc, Josaphat se demande clairement à ce qu'il y ait l'avis. Il n'y a pas un vrai prophète, s'il vous plaît, dans tout Israël pour nous dire ce que l'Éternel. Et Acab, il le connaît, Michel, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'il en a marre de ces prophètes qui disent le contraire que lui, il veut, hein, le contraire de sa pensée. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est Acab qui fait l'inverse de ce que Dieu lui demande. Donc, évidemment, là, il va se plaindre, Acab, de Michée, comme il s'est plaint de Élie, parce qu'ils ne lui prédisent rien de bon. Se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu va finalement agir en envoyant un esprit de mensonge ou en autorisant un esprit de mensonge sur cette foule de prophètes? Parce qu'Acab n'écoute pas Dieu. Et le texte nous dit clairement que eh bien, Dieu veut en finir avec cet homme qui a l'apparence, mais qui n'est pas un homme selon le cœur de Dieu. Nous l'avons entendu tout à l'heure, Dieu regarde au cœur. Et il ne se laisse pas tromper. Une grande mise en scène est faite, vous l'avez peut-être lu. Tout d'un coup, les deux rois sont sur leur trône à l'entrée de la ville. Souvent, la entrée des villes, c'est là où il y avait la grande porte, le grand portique, l'arc de triomphe un peu. Et c'est là que toute la prestance, il y a de la place, il y a une grande place, il y a tout le monde qui est là, le peuple est là. Voilà, on est en habit de roi. On montre qui on est, n'est-ce pas? On est deux rois ensemble, c'est génial. Ah là là, ça faisait longtemps que le roi du Sud et le roi du Nord ne s'étaient pas mis ensemble pour montrer cette association. Et on va chercher Michée. Et en fait, il est en train de se passer deux choses en même temps. On va chercher Michée, mais avant ça, la personne qui va le chercher, il se rend compte que là, on est dans une scène, une mise en scène majestueuse. Une mise en scène d'apparat. On est dans quelque chose de beau, de grand. On a mis ce qu'il fallait pour en mettre plein la vue. Et on a fait appel à tous les prophètes de l'école officielle de la prophétie qui viennent devant et qui n'arrêtent pas de dire « Mais oui, béni, mais oui, amen, mais oui, allons-y, alléluia, etc. etc. » pour tout simplement continuer de conforter Acab dans son idée d'aller conquérir cette ville. Et là, il est mentionné précisément Sédécias, qui, lui, va carrément jouer un sketch, se faire des cornes en fer, mettre ça sur sa tête, et va faire comme s'il était un taureau, n'est-ce pas? Tu vas décimer avec tes cornes, tu vas décimer cette ville, etc. Donc, vous voyez, on est là dans quelque chose d'assez... visuellement... on est émerveillé par ce qui se passe et on va chercher Michée en lui disant il va falloir que tu dises la même chose que les autres, mon ami. Parce que là, on a déployé, on va dire, tout ce qu'il faut pour s'encourager et pour que le peuple soit encouragé de partir avec ce roi pour aller combattre. Et vous avez compris que Michée, dans un premier temps, joue le jeu en disant oui, c'est bon, tu peux y aller. Et à ce moment-là, c'est tellement gros, il joue tellement mal qu'à ce moment, eh bien, Akab lui-même lui dit arrête, s'il te plaît, prends pas pour un imbécile. Hein. Là, qu'est-ce que Dieu dit? Tu veux savoir ce que Dieu dit? Ce peuple n'a pas de berger. Ce peuple n'a pas de berger. C'est triste quand on n'a pas de berger. On ne sait pas où on va. On ne sait pas qui on écoute. On n'est pas nourri. On n'est pas protégé. Ce peuple n'a pas de berger. Tu ne sers à rien. Tu es là, mais il n'y a personne, en fait. Et donc, ce roi d'Akab, va prendre ça violemment comme une attaque contre sa propre personne. Il va s'en prendre à Michée. On ne comprend pas. Et on ne comprend pas pourquoi non plus Josaphat va quand même aller à la guerre avec Akab. Est-ce que vous me suivez toujours? Je vais un peu vite, mais c'est un récit facile à comprendre. Et on ne comprend pas pourquoi forcément Josaphat va à la guerre. Cette mise en scène, en tout cas, va permettre au peuple et aux deux armées de se joindre pour aller au-devant de cette bataille. En fait, Akab, il fait venir Michée parce qu'il est obligé pour Josaphat, mais Akab n'a pas du tout envie d'entendre la parole de l'Éternel. Il n'a aucune relation personnelle avec l'Éternel. Il n'a aucun souhait de le consulter. Sinon, il n'aurait pas mis en place cette équipe de fanfarons en grand nombre pour se donner, on va dire, l'adhésion d'un plus grand nombre encore, tous ces prophètes qui lui disent ce qu'il veut entendre. Dans la Bible du Semeur, il est dit que ces prophètes étaient devant ces deux rois dans un état d'exaltation. 400 personnes dans un état d'exaltation, d'excitation. Un petit peu comme les jours de Champs-Élysées après match gagné, n'est-ce pas? Tout le monde est content, n'est-ce pas? On y va, ouais, c'est la fête. Tout le monde s'aime, tout le monde, il est beau. Voilà, c'est un peu ça à quoi assistent ces deux rois. C'est un roublard, ce Akab, puisqu'il va demander dans la suite à Josaphat de garder ses habits de roi pour aller au combat. Et quand même, moi, je vais m'habiller en petit soldat. Je ne sais pas pourquoi Josaphat accepte ça. Le texte ne le dit pas, même en chronique où le texte est repris, il n'y a pas d'explication. Mais Josaphat accepte, lui, il y va. On a l'impression qu'il ne comprend pas ce qui se passe et il suit le mouvement. Et Akab, lui, se met en simple soldat sur son char. Alors évidemment, l'attention est attirée vers ce roi qui est là, Josaphat. On se rend compte très rapidement que ce n'est pas le roi du Nord, ce n'est pas le roi qu'on doit tuer, parce que ce n'est pas le roi qui nous pose problème, hein, vu que c'est le roi qui est d'un autre endroit. Et on va lâcher Josaphat, on va se désintéresser de lui. Mais il y a un archer maladroit qui va décocher sa flèche. Et évidemment, la parole de l'Éternel va s'accomplir. Ça va venir dans la cuirasse de Akab, à l'endroit de la faiblesse de la cuirasse. Je ne sais pas trop où c'est, mais en tout cas, Akab va mourir. Et les chiens vont lécher son sang, ce qui avait été prédit par la parole de Dieu. Notre passage de ce matin nous invite à nous poser des questions. Première question que je vous propose, trois questions. Qui j'écoute, qui m'influence? Que ce soit pour les affaires de ce monde ou pour le spirituel, est-ce que le nombre ou peut-être la détermination des gens me pousse à les suivre? Est-ce que la démonstration de la réussite, ce qu'ils affichent, le fait de me mettre plein la vue va avoir un impact sur moi? Qu'est-ce qui fait que j'écoute? Qu'est-ce qui va m'influencer? Le peuple est parti à la guerre. Il a perdu. Qu'est-ce qui va finalement attirer mon regard? C'est très important de se poser cette question dans le monde dans lequel on vit. Je ne vais pas vous faire des descriptions. Mais, vous savez, Il y a même des adolescents qui se suicident à cause de cette question-là. On en est rendu à ça, le regard, l'influence, l'écoute. Jésus-Christ est venu comme n'ayant rien pour attirer les regards. Rien pour nous plaire. Un homme commun, pas Hollywood, comme certains films peut-être le présentent. Et si je suis attiré par ces choses bling-bling ou le fast TikTok, peut-être que je serais passé à côté de Jésus-Christ. Peut-être. Parce que j'aurais dit, non, mais lui, pas assez, ouais, pas assez, hein, c'est pas assez. Quand c'est spirituel, il y a plus que ça. Il faut que ça affiche quand même, hein, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a des gens qui proposent de faire des prophéties pour vous sur ces réseaux sociaux. Vous les appelez, ils vont prophétiser pour vous. Et là, vous allez entendre je ne sais quelle réponse qui vient de Dieu. Moyennant, évidemment, quelque chose. Qui j'écoute? Qui j'écoute réellement? Qui m'influence? La deuxième question que ce texte m'amène à me poser, c'est: est-ce que je suis hypocrite? Alors, désolé, c'est un peu violent, mais est-ce que je suis sincère avec Dieu? Est-ce que je suis sincère sur mon état personnel? Le Seigneur nous demande d'être sincères. Ou est-ce que je vis pour bluffer les autres, pour tromper comme Akab, qui est fourbe, qui est calculateur, hypocrite, hein? C'est-à-dire, il fait semblant que bon, l'Éternel et sa parole l'intéressent, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est une vraie question. Est-ce que je suis sincère avec Dieu dans mon cœur? Est-ce que vraiment je lui fais part de ce que je ressens, de qui je suis, de voilà, je lui demande pardon et je me mets au clair, ma vie est en règle. Est-ce que voilà, il n'est pas question de savoir est-ce que je suis parfait devant Dieu. Vous avez compris, hein? Est-ce que je suis dans la vérité ou est-ce que je suis dans l'hypocrisie sur mon état devant Dieu? Josaphat était un homme qui semblait être vraiment, hein, quelqu'un attaché au Seigneur. Et pour autant, il s'est fait tromper là aussi par Akab. Et la troisième question que je nous invite à nous poser, moi aussi le premier, et ne pensez pas que j'ai un ton accusateur, ce n'est pas du tout le cas, c'est une vraie préoccupation aussi pour chacun d'entre nous. Est-ce que je suis dans la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que je suis dans la vérité de la parole de Dieu? C'est agaçant de lire la Bible. C'est agaçant. Parce qu'il faut s'arrêter, parce qu'il faut aller prendre le livre qui est là-haut, il faut, voilà, et puis il ne faut pas faire autre chose, alors que nous on aime bien faire plein de choses, on écoute la musique en même temps qu'on fait ci, etc. Des fois ça peut paraître agaçant, n'est-ce pas? Allez, bon je la connais, mais est-ce que je suis vraiment dans la vérité de Dieu? Est-ce que je m'entoure de gens qui m'illusionnent, qui sont acquises? Excusez-moi, c'est peut-être pas français, mais... Je ne sais pas si on le dit ça, qui sont des personnes qui sont acquises à ma cause. Ça se dit ou pas? Oui. Est-ce que je m'entoure de gens qui me disent ce que je veux entendre sur mon état? Mais qu'est-ce que tu es bien, Jean-Claude? Oh là là, tu es vraiment un homme de Dieu. Waouh! On n'en fait plus comme ça. Non, c'est une... N'est-ce pas? Est-ce que je me persuade de ma réussite, de mon succès, de la présence de Dieu? Est-ce que je me persuade de la bénédiction de Dieu? Alors que je n'obéis absolument pas à sa parole. Je ne cherche même pas à savoir ce qu'il a à me dire. Paul nous dit en 2 Timothée 3 et 4, en effet, 2 Timothée 4, 3 et 4, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs, et ils détourneront l'oreille de la vérité, et ils se tourneront vers des fables. Démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est gênant, la démangeaison. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà été piqué, des choses comme ça. On est là, ça attire notre attention, on doit gratter, on ne peut pas. Et c'est un peu ça, là. Je veux entendre. J'ai besoin d'entendre des fables, j'ai besoin d'entendre des âneries, j'ai besoin d'entendre des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité biblique. La vie chrétienne, mes amis, n'est pas forcément facile tous les jours, et elle n'est pas non plus plus triste qu'une autre, au contraire. Mais les vrais chrétiens, ceux qui ont connaissent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, luttent. Ils luttent contre le péché qui se tapit dans leur cœur assez facilement, peut-être, ou qui vient les perturber. Donc le péché à l'intérieur, ils luttent, les vrais chrétiens luttent contre le péché à l'extérieur, le monde, l'ambiance, et ils luttent aussi contre le prince de ce monde qui a une intention. C'est clair, la Bible le dit, le prince de ce monde veut nous détourner de la parole de Dieu. Quand on est chrétien, dans la Bible, on ne parle pas de réussite sociale, on ne parle pas de succès. Parmi tous les apôtres, ils sont tous morts persécutés. Hein. Il n'y en a aucun qui est monté sur un trône, même à Rome. On ne parle pas de succès, on ne parle pas d'échapper aux difficultés de la terre. Le Seigneur est clair, la Bible est claire. Aucun orgueil possible à notre rencontre, mais juste le désir de marcher derrière le bon berger. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est possible. Et sa victoire, il nous l'a fait vivre aussi. Et par sa grâce, quand nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui doivent changer dans nos vies. Nous ne sommes pas seuls, mes amis, pour avancer. Vous et moi, nous ne sommes pas seuls pour avancer. Nous avons Christ qui est avec nous. Nous sommes aimés, nous l'avons chanté, de notre Père Céleste. Nous avons son Esprit qui nous aide à faire face, pour nous aider à comprendre. Mais voilà, est-ce que je suis dans la vérité de la parole ou est-ce que je suis dans autre chose? Le contexte dans lequel nous vivons est un contexte un peu difficile. Alors, on use souvent des phrases un peu générales, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui refuse ce que j'appellerais la vérité biblique. Alors, les idées de la Bible, elles sont répandues, hein, l'amour pour le prochain, la bienveillance. Le monde a découvert ce mot-là. Il utilise aujourd'hui la bienveillance. La Bible, elle l'utilise depuis bien plus longtemps. Et quand je dis que le monde refuse la vérité biblique, c'est qu'il refuse de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Le monde refuse d'ouvrir les yeux sur cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Notre péché conduit au jugement, à la mort éternelle. Après la mort vient le jugement, nous dit la parole. Jésus nous avertit, un peu comme Michée l'a fait pour Akab, tu vas mourir, attention, tu n'écoutes pas la parole de l'Éternel, tu vas mourir. Mais évidemment, nous sommes comme Akab, prompts à ne pas écouter sa parole. Beaucoup de gens nous disent que voilà, c'est bien d'être chrétien, c'est super, ça nous fait du bien, ça nous aide, ça nous encourage peut-être. Peut-être que ça nous permet de dépasser nos problèmes et nos difficultés. Ça nous sauve d'être chrétien, c'est tout. Être chrétien, c'est être sauvé, avoir la vie éternelle. On peut, c'est vrai, avec le Seigneur, dans la marche, avancer, progresser. Merci Seigneur, parce qu'il est vivant et il a des solutions. Mais la chose la plus merveilleuse qui soit, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a porté notre condamnation et nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4, verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Galates 1, 8 nous dit, si nous-mêmes, l'apôtre Paul, ou si un ange du ciel, archange Michel ou les autres archanges, nous annonçait un autre évangile, celui de la croix de Jésus, que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit exclu, qu'il soit expulsé, qu'il soit maudit. Si quelqu'un venait pour vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, c'est le seul évangile qui sauve, il n'y en a pas d'autre. Qu'il soit mis dehors, on ne veut pas l'entendre. Combien de gens ont démarré des religions, des sectes, sous prétexte qu'un ange leur avait révélé quelque chose? Si même un ange du ciel, non, il n'y en a pas d'autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que Jésus-Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père sinon par moi. » Acab n'a pas accepté. Est-ce que nous avons accepté ça? Est-ce que nous voulons l'accepter? Oui. Essayons de remettre les choses dans l'enjeu. Ce monde, peut-être, ne veut pas entendre ça, mais nous voulons être de ceux qui le disons avec amour. N'est-ce pas? La deuxième chose que j'aimerais vous dire ce matin, les églises sont tentées de jouer aussi avec la vérité. Nous sommes dans un siècle où on veut rassembler du monde. Et ce n'est pas un mauvais problème, ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir rassembler les chrétiens, qu'on soit en grand nombre. Et que, voilà, mais il y a un moment donné, quand on est 400 prophètes et qu'on commence à s'exciter, qu'on commence à dire, ah voilà ceci, voilà cela, j'ai fait ceci comme rêve, j'ai fait ceci comme là, je vais vous dire ce que Dieu dit, etc., etc. Il y a un moment donné, hop, c'est plus la parole de Dieu qui est au cœur de notre attention. C'est l'audace des gens, l'audace. Tu vas guérir. Tu vas guérir. C'est moi qui te le dis, n'est-ce pas? C'est l'autorité. Au nom de Jésus, moi, je te dis que. Quelle arrogance. Pour certains, c'est le spectacle. Mais tenter de jouer avec la vérité, tout simplement pour pouvoir avoir du succès en allant vers le spectacle, vers la ferveur affichée, vers la ferveur affichée. Je ne cherche même pas à désigner qui que ce soit, mais nous devons réaliser que ce n'est pas les certitudes que l'on affiche. C'est pas ça qui nous donne notre assurance. Ce n'est pas l'éloquence que l'on voit en face de nous qui va donner la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Je suis le chemin, la vérité. On parle succès, on parle de bénédiction, on parle de choses qui... Et puis après, un beau jour, quand ça n'arrive pas, on commence à vaciller. Mais telle prophétie, soi-disant, me disait ça, me disait ça. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Mais peut-être que Dieu n'existe même pas, finalement. Ou peut-être que tu n'as pas écouté la bonne personne. Tu n'as pas regardé la parole de Dieu. Moi, j'appellerais ça la spiritualité TikTok. Vous savez, Christ est notre seul modèle. Peut-être qu'il ne vous plaît pas, mais c'est le seul modèle que nous avons. Christ est notre seul modèle, notre seul exemple. Et si vous en prenez un autre, un jour ou l'autre, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé, que vous avez été trompé, et forcément vous allez être découragé parce que vous allez vous dire « j'avais un cœur sincère ». C'est Christ qui est notre modèle. Pour finir, sur ce message, je suis désolé, je suis un peu peut-être sombre ce matin, mais je vous invite à ouvrir les yeux pour qu'on puisse réfléchir à ce qui se passe autour de nous. Le mensonge et l'hypocrisie sont contagieux, je dis. Ouais. Un peu comme ce qui se passe dans notre texte. Finalement, tout le monde baigne dans cette hypocrisie, dans ce sketch, dans cette façade. Et c'est contagieux, tout le monde va à la guerre. Sauf Miché qui, lui, est en prison, évidemment, au pain sec et à l'eau. C'est étonnant de se rendre compte comment nous sommes des moutons qui devons suivre le bon berger, mais que bien souvent nous sommes tout simplement des moutons qui suivons les autres. Moi le premier, n'est-ce pas? Nous voulons être de ceux qui cherchent le Seigneur et c'est ce que je vous invite à garder dans votre cœur. Mon travail à moi, c'est de prévenir les risques. C'est mon travail. Et juste vous inviter à avoir l'attitude qui prévient du risque ou des risques. La Bible nous dit ça dans plusieurs textes. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas de souci. Le Seigneur est là, le Seigneur y voudra et le Seigneur est vivant et il sait. Vous le cherchez, il n'y a pas de problème. Nous pouvons avoir cette certitude que vous allez le trouver, qu'il va vous trouver. Et cherchez-le de votre cœur, ne cherchez-le pas juste pour peut-être faire comme les autres. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, Ésaïe 55:6. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est vrai que l'Éternel est prêt, et il le sera pour l'éternité avec ceux qui sont destinés à la vie éternelle, mais pour les autres, un jour, il va s'éloigner d'eux. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le. Toujours ce mot « chercher ». Et il recourt à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Combien de fois je suis obligé dans la journée de me dire « qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse ? Comment le Seigneur veut que je parle ? Comment le Seigneur veut que je me comporte ? Qu'est-ce que je dois dire ? Seigneur, je cherche ta face, je ne sais pas. Je voudrais que tu m'aides. » Et de dire « c'est toi le bon berger que je veux suivre. » Proverbe 8, verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent, dit le Seigneur, me trouvent. » Avec ce dernier texte d'Amos, « Cherchez l'Éternel et vous vivrez. » Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Quelle invitation, n'est-ce pas ? Le Seigneur n'est pas là pour jouer le rabat-joie, il est là pour nous dire la vérité et pour nous inviter à vivre. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Mes amis, il y a plein de choses encore que nous pourrions dire sur ce texte-là, mais je vais m'arrêter là ce matin pour nous inviter. Alors, je ne sais pas si vous avez bien rempli votre feuille, ceux qui ont rempli, mais il y a un mot qui n'y est pas là, c'est le mot « vérité ». J'espère que vous l'avez mis à un autre « vérité ». Voilà, je vous invite à courber la tête et à demander au Seigneur de nous aider à avoir cette attitude qui lui convient, d'être attentif à sa parole. Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment nous placer devant toi encore ce matin, te demander pardon pour toutes ces fois où nous faisons des mises en scène, Seigneur, et où nous venons juste pour faire croire que, Seigneur, mais nous sommes ici ce matin, Seigneur, devant toi, dans cette église, parce que nous voulons, Seigneur, te chercher, nous te cherchons, nous voulons vivre cette vraie vie avec toi, nous voulons être de ceux qui te suivent, Seigneur. Seigneur, tu es le bon berger, nous voulons marcher derrière toi. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, je veux te prier pour que tu touches leur cœur par rapport à ce que tu nous dis, Seigneur. Seigneur, que sans toi, Seigneur, il n'y a pas de salut. Qu'après la mort vient le jugement, Seigneur. Que, Seigneur, tu puisses toucher les cœurs de chacun avec chacun, Seigneur, puisse comprendre, Seigneur, de quoi il s'agit, Seigneur, de la gravité. Et Seigneur, que cette gravité aide chacun d'entre nous à nous tourner vers toi et à te dire, Seigneur, merci pour ton salut accompli à la croix. Seigneur, si tu veux que nous te cherchions, c'est parce que tu nous aimes, parce que tu veux, Seigneur, nous aider à grandir, tu veux nous protéger, tu veux nous aider à avancer avec toi. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et permets que cette semaine, nous puissions garder ce mot, Seigneur, cette invitation de ta part. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen.